Bonjour à tous. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. C'est quelques mots qui sont assez obsédants. Je les ai piochés dans un livre, un très bon livre, qui s'appelle « À la ligne, feuillet d'usine », écrit par Joseph Pontus, paru en 2019. Ce livre a eu plein de prix, a eu un fort écho. L'auteur y raconte son travail comme intérimaire dans des usines agroalimentaires, des abattoirs en Bretagne. J'écris comme je travaille à la chaîne, à la ligne. Ce sont aussi des mots qui ont fait la matière d'une chanson tirée d'un album qui s'appelle cette fois-ci « À la ligne, chanson d'usine » et non « feuillet d'usine ». Album de rock, de musique actuelle qui a été fait par nos deux invités. Bonjour et merci d'être là. Michel Clou, vous êtes musicien, guitariste, chanteur. Pascal Boisis, bonjour. Vous êtes aussi musicien, guitariste, chanteur. Oui. On peut dire ça. Bon.
Il y a un troisième larron.
Absolument, le batteur Julien Ruffier.
Voilà.
Donc qui vous a aidé à réaliser ce disque.
Voilà, on a travaillé en composition ensemble.
Très bien.
Sur ce disque.
Donc vos deux noms sont connus depuis au moins le milieu des années 90, on va dire, ce qui ne rajeunit peut-être pas.
Le siècle dernier, c'est ça.
Le siècle dernier, connu peut-être dans un milieu d'amateurs de rock, comment on peut dire, lettré, rock français.
On peut dire tout un tas de gros mots par rapport à notre musique.
Hein. Voilà, donc je suis en tout cas amateur, je ne sais pas comment vous définiriez. On va donner le nom de vos différents projets et groupes. Donc Michel Clou, Diabologum, Expérience, Michel Clou Duo. Et Pascal Boisis, Mendelssohn et Bruit Noir.
Donc, c'est correct.
Très bien. On va peut-être dire, pour commencer, que cette émission elle est un petit peu particulière, parce que quand on l'a préparée, on avait prévu d'avoir avec nous à distance Joseph Pontus pour pouvoir discuter de comment on écrit, comment on chante et comment on raconte le travail ouvrier et la vie à l'usine. Et Joseph Pontus est décédé. Il y a quelques jours, fin février, et on a quand même maintenu cette émission aussi, parce que vous étiez d'accord, et nous aussi. Donc peut-être pour commencer, on va écouter les mots de Joseph Pontus, qui raconte son projet et comment et pourquoi il a écrit son livre « À la ligne ». On écoute.
« La ligne feuillet d'usine » raconte l'histoire d'un ouvrier intérimaire contraint d'embaucher dans les usines et les abattoirs en Bretagne. Enfin, ça raconte mon histoire d'intellectuel qui a tout quitté pour se marier en Bretagne et donc qui ne trouvait pas de travail dans son secteur original d'activité, le travail social. Et donc, j'ai dû pousser la porte des agences d'intérim et je me suis pris l'usine comme une déflagration physique, mentale. Et pour tenir le coup, j'ai commencé à écrire pour me souvenir de ce que j'ai enduré. Et c'est un décor nocturne, industriel, marqué par le bruit des machines, par l'odeur de la mort, des poissons, des carcasses de vaches, et par la solidarité ouvrière, par des petits chefs, par des difficultés physiques, par des moments d'humour, par des chansons, par des souvenirs de livres et de grands auteurs qui m'aident aussi à tenir sur mes lignes de production.
Voilà, alors Michel, vous avez tenu à faire cette émission. C'est important pour vous de porter cette parole ou cette œuvre ?
C'était important à la base, parce que ça a été une rencontre forte, déjà artistiquement forte. Un livre, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Et donc, je me suis senti proche aussi par rapport à mon travail personnel. Et puis, il y a toujours eu cette envie de continuer, hein, de porter cette parole. Il y avait une envie très forte. Et puis, là, d'autant plus, en fait. Même si c'est encore tout frais, c'est assez difficile. Mais il y a vraiment, plus que jamais... Continuer à chanter ce texte, quoi. Moi, quand j'ai découvert ce livre, j'ai d'abord pris en plein visage ce propos, cette histoire. C'était pas un journaliste, c'est pas un journaliste qui a infiltré une usine, c'est vraiment quelqu'un qui parle du déclassement qu'il a vécu et qui en parle bien. Et c'est une parole d'ouvrière d'aujourd'hui. Et j'avoue que personnellement, je trouve ça important de porter cette parole-là aujourd'hui. Et j'aurais pas été capable, moi, d'écrire J'aurais même pas essayé d'écrire quelque chose comme ça, parce que je pense qu'il faut le vivre pour en parler, et pour en parler aussi justement. Et donc, de toute façon, c'est une parole qui est importante, qu'il fallait porter, et là, encore plus.
Voilà. Okay. Comment est-ce qu'on travaille pourquoi adapter un texte, hein, donc je le dis pour ceux qui n'auraient pas lu, à la ligne, c'est des vers libres où Joseph Pontus raconte comment il a déménagé en Bretagne, il est devenu intérimaire, voilà, et il y mêle beaucoup de références, d'auteurs, il y en a pas toutes les pages, mais quasiment. Alors, et pourquoi adapter, pourquoi travailler autour de ce texte-là? Donc vous avez répondu en partie.
En fait, au départ, c'est une commande. Mm-hmm. C'est-à-dire que mon producteur, la station-service, producteur de tournée, me propose d'adapter un livre en musique. Au départ, c'était prévu comme une lecture musicale. Okay. C'est pas trop ce qui m'intéressait. Je suis pas forcément client de ce genre d'exercice, mais bon, j'accepte. Je cherche un livre, plutôt d'un auteur français d'aujourd'hui, mm-hmm. ou auteur ou... auteuse ou autrice, je ne sais plus comment.
Chez nous, on dit autrice.
Autrice. Enfin, homme ou femme, peu importe. Je voulais une voix d'aujourd'hui, quelque chose d'aujourd'hui, et je tombe par l'intermédiaire d'un ami, d'un très bon copain, sur ce livre. Et donc, voilà, au départ, ce qui était une commande devient quelque chose. En fait, je me suis pris au jeu, parce que ce livre m'a énormément plu. J'ai trouvé une forte proximité au niveau des textes. Ensuite, j'ai rencontré l'auteur. Voilà, il y a eu aussi une forte proximité humaine. Et puis, j'ai attrapé ce livre et je voulais pas justement rentrer dans une adaptation avec le gars assis sur le tabouret en train de lire le livre et puis le guitariste à côté. Ça m'intéressait pas. Et dès que j'ai commencé à lire ce livre, tous les livres que je lisais à ce moment-là pour chercher un livre, il y avait cette idée de musicalité. Donc je récitais dans ma tête en lisant. Et quand il m'a fallu 3 pages pour entendre déjà des refrains, il y avait quelque chose dans la forme et dans l'écriture qui se prêtait vraiment, vraiment à cet exercice. Et d'autant plus que le livre aussi parle de beaucoup de musique. De chansons populaires
qui aident justement un extrait là-dessus, hein.
qui aident à tenir le coup, et je trouvais ça beau finalement de voilà. Après c'est un projet qui est un peu hybride, c'est entre lecture et chanson, parce qu'il y a aussi des passages parlés,
ouais.
Parler chanter comme on fait avec Pascal dans nos carrières respectives.
Absolument.
Voilà.
Ok. Et vous, Pascal Boisiz, vous êtes, alors on peut dire qu'au départ dans le projet il y a eu un moment Miossec qui a aidé à choisir, à travailler sur les textes peut-être, à choisir des extraits, et ensuite vous êtes arrivé. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans le projet, dans le fait de travailler sur la littérature, sur les mots, ou ajouter la musique, comment ça marche?
Déjà c'est un grand livre, et c'est quand même assez rare de tomber sur un livre pareil. Donc, il y en a peut-être 500 qui sortent chaque année, mais des livres comme ça, j'en avais pas lu depuis très longtemps. Le livre est saisissant. Après, il y a une familiarité, comme a dit Michel, qui est très impressionnante dans son écriture par rapport à nos deux œuvres, entre guillemets, respectives. C'est quelqu'un qui a énormément écouté de chansons, de rock, énormément lu de poésie, de la poésie qui, moi aussi, on a beaucoup de références en commun avec Joseph Pontus. Et donc, c'était effectivement... le livre était fascinant et j'avais vraiment envie de participer à ce projet. Et après, la facilité avec laquelle... les mots sont venus dans la bouche, et c'est très rare, Michel pourra témoigner, de pouvoir chanter d'autres mots que les siens, c'est extrêmement compliqué, pour moi en tout cas. Donc là, j'avais l'impression que c'était une écriture fraternelle, quoi. Et en plus, dans les thèmes, dans le positionnement, dans l'humanité, dans la manière même dont il parlait de ses collègues, du travail, etc., il y avait quelque chose qui ressemblait à ce que j'aurais aimé pouvoir, moi, écrire, et ce que j'essayais d'écrire depuis des années, ou ce que j'essaye toujours d'écrire. Donc, je l'ai pas pris comme un... je l'ai pris comme une chance, quoi, voilà, comme un cadeau que la vie et Michel et Joseph m'ont fait.
D'accord. C'est vrai que vous dites tous les deux que quand vous travaillez vos chansons, vos musiques, ça tourne souvent autour de ces thèmes. Ça arrive, pas que, mais aussi le travail, la classe ouvrière. Alors vous avez une chanson qui s'appelle « La classe ouvrière s'est enfuie ». Vous, avec Brunoir, vous avez fait une chanson qui s'appelle « L'usine ». Vous parlez aussi du bruit de l'usine, ce qui revient beaucoup dans le livre de Joseph Pontus.
Que ce soit Michel ou... on n'a jamais fait des chansons sur des poètes qui se promènent au Luxembourg et qui sont saisis par la beauté du printemps. Ça n'a jamais été notre truc, mais il y en a qui le font très bien.
Ni des poèmes de confinement dans des apparts de 500 mètres carrés.
Autre chose qu'on n'a pas fait.
Il faut le vivre pour le faire.
Ouais. Voilà. Peut-être ça viendra.
Avec le succès peut-être. De votre œuvre.
Donc donc il y avait quelque chose de très très, et puis ce qui était très émouvant, c'est de se rendre compte qu'en fait Michel avait choisi le livre comme ça, pas par hasard, mais quand même une sorte de chance comme ça, et de se rendre compte que Joseph était fan de Diabologum depuis qu'il était gamin, parce qu'il était plus jeune que nous. Et puis
travail aussi.
Et puis qu'il avait fait écouter la chanson L'usine dont vous parliez à ses collègues de l'abattoir. Ouais. Donc il y avait vraiment des connexions.
C'est fait.
Voilà. Donc ça s'est bien aligné. Et puis voilà.
Donc on va peut-être écouter un extrait justement d'une chanson qui s'appelle Travailleurs de l'usine, qui un peu fait le tour de tous ces thèmes-là. Donc et qui parle aussi de chansons et de musique populaire. Donc on écoute.
J'entends parfois à travers les bouchons d'oreilles et le bruit sourd de l'usine monter du Balavoine, du Christophe Maé, se demandant où est le bonheur du Véronique Sanson, des gens populaires. Sous les masques, quelle est leur vie? Derrière les gestes automatiques, les entraides ouvrières, autant de crevettes, autant de crevettes, autant de crevettes, autant de questions, autant de questions, autant de questions, autant de crevettes. Qu'ils chantent, qu'ils se posent ou non des questions existentielles, en triant leurs crevettes, travailleurs de l'usine, je serai des vôtres, travailleurs de l'usine, je serai des vôtres.
Travailleurs de l'usine, je serai des vôtres. Je voulais vous demander comment est-ce que vous avez travaillé, ou comment est-ce qu'on adapte un texte comme ça. C'est sur le travail déjà des mots. Il y a des passages, il y a des collages, des coupes.
En fait, si tu veux, Joseph, au départ, m'a dit carte blanche. Je veux même pas savoir ce que vous faites. Je veux voir le truc fini. J'ai 100% confiance. Donc c'était okay. Super, mais c'était extrêmement stressant. Et moi, mon idée depuis le départ, en fait, c'était pas de changer le texte, c'était de faire du cut-up, en fait. Mm-hmm. De prendre des bouts de texte, de les assembler par moments différemment, puisqu'il y a des choses qui sont dans le livre à suivre, et par moments qui sont... c'est du cut-up. Donc le texte en soi est identique au livre, sauf qu'en fait c'est par moments c'est des blocs, par moments c'est des petites phrases piquées pour reconstruire un texte. C'était plus sur l'ensemble du... Au départ c'était un concert, maintenant c'est un disque, mais sur l'adaptation, l'idée principale était de garder la trame du livre.
Donc l'ordre chronologique.
La chronologie, la première partie avec les poissons, les bulots, et la deuxième partie à l'abattoir, de vraiment garder la chronologie et de, je crois, garder ce qui nous semblait. Alors après, c'est toujours une adaptation, c'est subjectif, mais l'idée c'était de garder aussi ce qui nous semblait important. Et puis il y avait un souci, il y a une chose, c'est l'oralité. Mmh. Donc il y a des phrases très belles dans le livre, mais qui étaient impossibles, qui ne sonnaient pas à l'oral, en tout cas dans ce format-là, quoi. Donc il y avait ce souci d'oralité, garder les thèmes principaux, les choses qui nous semblaient importantes, en fait, dans la traversée du livre, ce qui fait qu'il y a tout un tas de détails qui passent à la trappe, mais voilà. Okay. L'idée, c'était de faire un truc aussi...
L'idée, c'était de respecter aussi... Le livre est très, pour parler en termes un peu musicaux, très dynamique. Donc il y a des passages d'une très grande violence et il y a d'autres passages très apaisés ou de grande fatigue ou de contemplation ou de contemplation ou de par la fatigue. Enfin, il accède à des états comme ça de presque d'extase par la fatigue. Et donc il y avait, on a passé un extrait d'une, c'est plutôt un moment de méditation, de calme. Il y a des moments dans l'album ou dans le spectacle qui sont très violents parce qu'il fallait que ce soit à la hauteur de la violence que le personnage subit et que des gens encore aujourd'hui, là, à l'instant même où on parle, là, subissent. Donc il fallait que ce soit, voilà, il fallait que le spectacle soit à la hauteur de ça. Et puis des moments, voilà, de pure extase ou de grande fatigue, ou des moments où il parle de littérature, il parle de son amour pour sa femme. Et il fallait pas faire l'impasse sur la complexité et la richesse du livre.
Donc effectivement, j'ai pas vu le spectacle, je l'ai raté quand il est passé à Paris. Malgré moi, mais dans le disque, effectivement, on a donc il y a des morceaux avec des mélodies très affirmées, comme celui qu'on vient d'entendre. Il y a des ébrures de guitare électronique et qui reviennent notamment sur l'abattoir. Vous avez plusieurs moments effectivement très violents. Vous l'avez dit.
La partie de l'abattoir est d'une violence au niveau du texte. Mmh. Et c'était assez difficile de faire ça sur des arpèges, de jolis arpèges de guitare. Ça aurait pu être intéressant aussi, mais non, c'était pas le propos. Et je crois que pour vraiment rendre justice au texte, il fallait aller dans le sens du texte. Et il y a vraiment des moments où il fallait y aller, et on y va. Et l'idée, c'était vraiment d'y aller, par contre. C'était pas de faire une partie à l'abattoir un petit peu violente. Les parties à l'abattoir sont extrêmement violente sur disque et encore plus sur scène. Et voilà, c'est aussi être fidèle au texte et être fidèle à tout ce qui se passe. Et comme le dit Pascal, effectivement, c'est un livre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre aussi parce que on rit, on pleure, on passe par des moments de contemplation, de fatigue, de il y a tout cet aspect de difficulté au travail, la violence sur le corps. On est dans quelque chose. Joseph, il y a des jours, il a envie d'embrasser tous ses collègues, et il y a des jours, il peut plus les supporter. On est dans quelque chose de vrai, en fait, et de ça va pas, ça marche pas dans un sens. Ça, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire nous quand on fait nos chansons aussi, c'est d'être juste et pas de. Et donc de dire des choses qui parfois sont fédératrices et puis parfois le sont pas vraiment, quoi.
Vous devancez un peu les thèmes de mes questions.
Merci.
Non, c'est parfait. Au contraire, vous m'apportez ça déroule tout seul. Parce que ce livre à la ligne qui a eu vraiment un écho assez fort, un succès critique. C'est pas tous les jours qu'on a une œuvre littéraire sur qu'est-ce que c'est de découper des vaches en deux, qu'est-ce que c'est de travailler, de dégoûter du tofu. Il y a tout un passage vraiment très beau sur j'égoutte du tofu. Donc, dans la littérature, c'est assez singulier, mais dans la musique aussi, peut-être. J'imagine que vous revendiquez un peu cette place, enfin, puisque ça fait des années, vraiment, on peut dire des dizaines d'années que vous travaillez autour de ces questions. Comment ça marche quand, alors, une question très naïve, quand on est un artiste dans ce monde français, musical, classique, de tenir une position ou d'un propos qui tranche avec ce qu'on a l'habitude d'entendre à la radio.
Ce qui me concerne, moi, mon propos n'est pas de trancher, c'est d'essayer de d'écrire des choses dont je n'ai pas honte à la fin de la journée, ni en les écrivant, ni en les chantant, et dont je n'aurai pas honte dans 10 ans. Et ce qui était vraiment très impressionnant avec le livre de Joseph, c'est que quand j'écris une chanson, même quand ça ne m'est pas arrivé réellement, les gens qui parlent dans les chansons, c'est des morceaux de moi-même, des possibles, voilà, des possibilités de moi-même, quoi. Et là, c'est comme si je retrouvais un possible moi-même
chez quelqu'un d'autre.
Pour parler de la chanson L'usine, par exemple, pour moi, c'est bêtement, c'est de voir des films comme Notre pain quotidien, qui est un documentaire allemand, et on voit une jeune femme qui pendant 10 minutes, et elle coupe des pieds de cochon avec un sécateur. Et ben, la puissance de ces images-là, le fait que je sois devenu végétarien et que je me dis je ne peux plus continuer à manger quelque chose s'il y a quelqu'un qui porte ce travail-là pour moi, pour mon assiette, tout ça rentre en branle et donc j'arrive à écrire une chanson qui évoque cette chose-là. Mais je ne l'écris pas pour trancher, je ne l'écris pas pour me différencier. Et je crois pas que Michel ce soit la même chose. On n'essaye pas d'être différent.
On essaie d'être nous-mêmes, en fait.
Voilà. Et donc, il se trouve que après, ça fait, si ça fait un disque différent, c'est un effet secondaire.
Ok. On cherche pas forcément à être différent, je pense, dans ce qu'on fait. C'est juste qu'on.
On croit toujours qu'on fait des trucs hyper facile, des tubes.
Moi,
tous mes albums, il y a plein de tubes, moi j'en suis persuadé. Puis après, les gens écoutent
et disent, oh là là, le pauvre. Voilà. J'aimerais juste qu'on réécoute Joseph Pontus, parce qu'on tourne autour de ces questions de travail à l'abattoir, de travail difficile et tout. Donc il se trouve qu'il a parlé dans plusieurs documentaires, pas en tant qu'écrivain, mais en tant qu'ouvrier. Donc là, on a pris un petit extrait d'un documentaire récent qui s'appelle « Les damnés, les ouvriers des abattoirs », qui a été diffusé sur France 2 en juin 2020. On peut réécouter ce que c'est une parole quand on parle du travail et du travail ouvrier.
Tout est tellement fait par la production, par l'usine, je crois, ou par la direction. Je sais pas par qui c'est fait, ou par la manière de se représenter dans sa tête. Pour que tu ne te rendes pas compte que c'est une vache en tant que telle. Parce que déjà, elle est morte. C'est une carcasse. On dit pas, on dirait presque pas la vache. Déjà, il y a quasiment personne qui les voit vivantes. Moi, j'ai jamais entendu un bruit de vache à l'abattoir. Je crois que c'est du même processus que ce qui a été décrit de manière très juste par Arendt sur la segmentation de la responsabilité dans des processus d'extermination. C'est-à-dire que moi, je dis, je ne suis que le mec qui va, par exemple, couper la queue d'une vache. Je suis pas du tout, je suis pas un tortionnaire. Je ne fais que mon travail qui est de couper la queue d'une vache. Comme le mec qui va dire, bah moi je ne fais que mettre une petite case, un petit fonctionnaire et on peut pas me mettre le génocide sur le dos.
Est-ce que ça prend de l'énergie?
De mettre ça à distance? Tu le fais de manière inconsciente. Tu t'en rends pas compte.
Voilà, donc ce documentaire a une forme assez frappante où les ouvriers sont interrogés dans une clairière, dans la forêt. Mais bon, alors, on voit tout à fait.
Très beau film, je vous conseille aux gens de regarder ça.
Tout à fait. Et puis on voit exactement la place de Joseph Pontus, je trouve. C'est-à-dire qu'il parle en tant qu'ouvrier, mais avec une réflexion assez poussée. Il cite la philosophe Hannah Arendt. Bon, dans le livre, il y a ça aussi, quoi. Il y a beaucoup de références. J'ai noté un peu au fil des pages. Aragon, Apollinaire, Hugo, Dumas, Céline, Sandra Ars, la chanteuse Barbara. Donc il y a plein de citations. Et il s'en sert pour mettre sur la table, peut-être pour un public qui n'a pas l'habitude de le voir, encore une fois, ce que c'est que le travail aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui. Alors j'ai un peu deux questions. C'est vous, et comment est-ce que vous avez géré ces citations qui foisonnent dans le livre?
On ne s'est pas trop attardé là-dessus. Mm-hmm. On ne s'est pas trop attardé parce que c'était pas évident à intégrer.
Mmh. Ouais, c'est sûr.
Et ça, autant ça passe bien dans le livre, autant on a essayé dans le texte, et c'était pas intéressant. Enfin, après, c'est, comme je disais tout à l'heure, une adaptation, c'est subjectif.
Bien sûr.
Et c'est donc, au bout de... Voilà. Moi, on trouvait que c'était peut-être un peu too much.
Un peu abrégé.
Et que ça passait pas forcément bien.
La première phrase du disque est une phrase d'Apollinaire.
Voilà. La première phrase, c'est fantastique, tout ce qu'on peut supporter, qu'on chante, mais on cite pas.
Ce serait un peu grotesque au milieu d'une chanson.
Oui, ça serait un peu appuyé.
C'est hyper difficile de...
Comme disait Apollinaire...
C'est un peu dur. Oui. Mais donc, ça, c'est effectivement, du coup, ça répond assez vite à ma question. L'autre question est plus vaste. Et c'est je ne sais pas si c'était le but de Joseph Pontus, mais en tout cas, c'est l'effet que ça a produit, c'est-à-dire faire arriver dans un milieu qui n'a pas l'habitude de parler de ces questions-là, le monde du travail. Est-ce que vous, c'est une motivation pour vous, aussi sur ce disque, dans le choix du livre, dans le choix des mots, c'est d'essayer d'être un peu en décalage, on n'est pas dans un monde syndical ou dans un monde qui peut ouvriers qui parlent toute la journée des conditions de travail, mais on est vraiment ailleurs.
On est dans la vérité.
Oui.
On est dans l'expérience, la vérité. On n'est pas dans un livre de sociologie, on n'est pas dans un livre d'un journaliste infiltré. On est dans un vrai livre.
Oui, mais là, dans votre travail, on est dans un disque de musique actuelle. Je me demande si vous amenez volontairement dans un monde de critiques rock habitués à parler de c'est super, il a mis de la distorsion ici ou là, on sent l'influence électronique de Kraftwerk. Ouais. Ces questions-là, pour les mettre un peu au milieu de la table, quoi.
Oui, mais c'est un peu déjà ce qu'on fait dans notre travail. Mais là, c'est clairement
le degré supérieur.
Un step supérieur. Puis il y a cette idée d'adaptation, de ne pas faire une lecture musicale classique, d'être un peu toujours... Il y a des passages parlés, il y a des passages chantés, il y a des moments doux, il y a des moments violents. Et c'est vrai que dans la musique actuelle aujourd'hui... On n'entend pas trop parler de ces questions-là, en fait. Mais je crois que la motivation, elle est avant tout personnelle. Encore une fois, on fait les choses pour les gens, mais aussi pour nous. Ça.
Alors pour moi, je veux bien vous demander de lire un passage ou des passages du livre à la ligne. C'est à la fois pour, encore une fois, faire entendre la voix de Joseph Pontus et pour ceux qui ne l'ont pas lu, les inciter à lire ce livre, donc merci de vous y coller.
En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'allais pas pour faire un reportage, encore moins préparer la révolution, non. L'usine, c'est pour les sous. Un boulot alimentaire, comme on dit, parce que mon épouse en a marre de me voir traîner dans le canapé en attente d'une embauche dans mon secteur. Alors, c'est l'agroalimentaire, l'agro, comme ils disent. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson et de tout ça, de poissons et de crevettes. Je n'y vais pas pour écrire, mais pour les sous. À l'agence d'intérim, on me demande quand je peux commencer. Je sors ma vanne habituelle, littéraire et convenue. Eh bien, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Pris au mot, j'embauche le lendemain à 6h du matin. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste, tenace, comme une arête dans la gorge. Non le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Sur ma ligne de production, je pense souvent à une parabole que Claudel, je crois, a écrite. Sur le chemin de Paris à Chartres, un homme fait le pèlerinage et croise un travailleur affairé à casser des pierres. Que faites-vous ? Mon boulot. Casser des cailloux. De la merde. J'ai plus d'eau. Un truc de chien. Devrait pas être permis. Autant crever. Des kilomètres plus loin, un deuxième, occupé au même chantier, même question. Je bosse. J'ai une famille à nourrir. C'est un peu dur. C'est comme ça. Et c'est déjà bien d'avoir du boulot. C'est le principal. Plus loin, avant Chartres, un troisième homme, visage radieux. Que faites-vous ? Je construis une cathédrale. Puissent mes crevettes et mes poissons être mes pierres. Je ne sens plus l'odeur de l'usine qui au départ m'a gassé les narines, le froid est supportable. Avec un gros pullover, un sweatshirt à capuche, deux bonnes paires de chaussettes,
et en collant sous le pantalon. L'usine m'a eu. Je n'en parle plus qu'en disant mon usine. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne.
Merci beaucoup. Vous pouvez prendre la suite si vous voulez.
Ou alors on...
Ou comme vous voulez.
On fait une petite pause. On digère.
Très bien. Pour la pause, si vous voulez, on peut tout simplement montrer alors, des extraits que vous avez montés vous-même, qui sont disponibles sur le net, de ce que ça donne en concert, ces mots...
C'était après le premier concert. Le truc qui a été créé en début d'année dernière, et on avait une grosse tournée sur tout le printemps, et en fait on n'a pu le jouer qu'une seule fois, puisqu'après il s'est passé quelque chose là, je pense que vous êtes au courant.
Oui, je crois.
Et du coup c'est le tout premier concert, voilà, c'est des extraits du premier concert.
Et ça a évolué depuis ?
Ça a un peu maturé.
Oui. Ok, bon, on peut. Regardons et écoutons.
C'est regardable.
Ça a de la tenue.
J'écris comme je pense, sur ma ligne de production, divagant dans mes pensées, seul déterminé. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne.
Et l'usine, quand tu en sors, tu ne sais même pas si tu rejoins le vrai monde ou si tu le quittes.
Sanctuaire indemne, on ne quitte jamais vraiment l'atoll. On ne quitte pas une île sans un soupir. On ne quitte pas l'usine sans regarder.
Voilà, pour donner envie pour quand il y aura encore des concerts, quand il y aura de nouveau des concerts, pour donner envie d'aller les voir si vous tournez finalement, je sais pas. Si
bon, non, il y a des concerts qui sont en train de se caler sur l'automne, parce que là, je crois que tout le monde a un peu renoncé à jouer avant.
C'est probable. Il y a un point qu'on a peu abordé, c'est la musique. Comment est-ce qu'on compose autour d'un texte comme ça ? Je ne sais pas si vous l'avez. Donc ça s'est fait pour un live, pour un concert ?
Au départ, c'était prévu qu'en concert. Mm-hmm. Quoi. Ouais.
Bah, on compose comme pour nos propres chansons. Mm-hmm. En fait, il y a à partir du moment où Michel avait fait le choix des textes, c'est notre travail, j'allais dire nous. Oui. Donc il n'y a pas vraiment de il n'y a pas un mystère particulier pour cette adaptation.
Et vous l'avez fait ensemble?
Alors moi, je suis première. On a pas mal travaillé avec Julien ensemble.
D'abord, et puis
après, Pascal est arrivé. On a continué. On a terminé vraiment avec lui, quoi.
Ok. Il y a une différence sur le travail pour en musique live, en concert et sur le disque, peut-être. Est-ce que vous avez dû repatouiller des choses? Bon, déjà, vous avez fait parler.
Quand on a enregistré,
Pontus qui lit des extraits dans le.
C'était déjà dans le spectacle.
C'était dans le spectacle aussi.
Joseph et aussi, on a rencontré tous les, enfin pas tous, mais sept ou huit anciens collègues qui sont devenus, pour certains, vraiment des amis. Qu'on a fait participer aussi des collègues de l'abattoir. Quand on a enregistré le disque, on avait juste un concert à notre actif.
Ouais. Il y a quelque chose dans le concert qui est évidemment très incarné, qui est il y a une
plus brute,
plus brute, plus physique, plus peut-être plus débraillé et qui ne transite pas sur le disque où du coup on essaye d'être un peu plus alors pas forcément dans le soin, mais comme le corps ne traverse pas encore le CD, eh ben on essaie d'être plus attentif peut-être à la manière de chanter, à la prise de son sur les guitares avec Triboulet, l'ingénieur du son, de manière à ce qu'il y ait quelque chose de physique qui transite quand même sans qu'on soit là pour le faire en vrai. Donc il y a tout effectivement c'est un énorme énorme boulot pour retranscrire une énergie sans la présence physique.
Un concert, tu le prends en pleine face avec les gens devant toi. Un disque, t'es assis ou t'es couché, t'écoutes au casque. L'idée, c'est aussi de peut-être d'être un peu plus dans la finesse, tout en gardant pas mal de brutalité aussi, quoi. Et voilà, c'est pas fait. c'est pas la même chose. Après, en revenant sur scène, après avoir enregistré le disque, finalement, on est à nouveau à mi-chemin entre le disque et ce côté plus brut de la scène et plus vivant et moins arrangé, quoi, quelque part.
Écoutez, je crois que le temps qui nous a imparti est à peu près fini, mais du coup, alors peut-être que là, je vais vous demander, s'il vous plaît, du coup, de finir en beauté avec ce qui est, je crois, la fin du livre.
C'est la fin du livre et c'est la fin du spectacle aussi. Mon épouse amour. Il y a ce poème d'Apollinaire aux tranchées qui m'obsède par sa beauté et sa justesse. Il y a ton anniversaire en ce jeudi saint. Il y a l'abattoir où je retourne demain matin et l'internat du lycée de filles où tu débauches à 23 heures quand je serai couché depuis si longtemps. Il y a ce cadeau à t'écrire. Il y a des vaches à la bouverie qui attendent d'être tuées demain à la première heure. Il y a des gamins vénézuéliens ou malgaches qui préparent des couronnes de crevettes surgelées. Et il y a des ouvriers de nettoyage qui passent aux produits chimiques avec leurs masques à gaz, comme chaque jeudi, le frigo des chevilles dans lequel j'ai bossé aujourd'hui et que nous avons vidé pour l'occasion. Il y a que j'avais la force aujourd'hui et que j'ai soulevé sans peine de leur crochet la cinquantaine d'agneaux qui est parti en commande pour Pâques. Il y a l'usine de poissons panés qui tourne sans fin en 3-8 et des hommes et des femmes là-dedans qui attendent déjà la relève qui arrivera à 23 heures précises. Il y a notre amour. Il y a un ouvrier à la bouverie qui nettoie les bouses que laissent les vaches en attente d'être tuées demain. Il y a des gens qui, à 7 heures, mangent des poissons panés, des crevettes ou des steaks sans imaginer. Il y a qu'en sachant, je mange des steaks. Il y a le cœur final de la passion selon Matthieu de Bach que j'écoute en t'écrivant ces mots. Il y a mes ongles sales, mon corps puant, que je ne sens même plus, et la douche que je n'ai pas encore prise. Il y a dans le monde des hommes qui n'ont jamais été à l'usine ni à la guerre. Il y a que je paierai cher demain ce texte écrit si tard. Il y a mon mal de dos et la fatigue autant que la joie. Il y a qu'il faut le mettre, ce point final, à la ligne. Il y a ce cadeau d'anniversaire que je finis de t'écrire. Il y a qu'il n'y aura jamais de point final à la ligne.
Merci beaucoup, Pascal Bouaziz, Michel Clou. Donc c'était À la ligne, le livre des extraits du livre de Joseph Pontus. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.